Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, il nous placera des jingles décisifs en cas de fringale. C'est Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Gilles, salut à toutes et tous.
C'est son retour dans l'émission après plusieurs années d'absence et de multiples cols gravis. Sylvain Trébaol. Salut Sylvain.
Salut à tous.
Très heureux de te revoir dans cette émission, Sylvain. L'invité du jour pendant une heure, c'est le président du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, section compétition, Daniel Gagne. Bonjour Daniel.
Bonsoir.
Émission spéciale de cyclisme. Aujourd'hui, on va alterner ascension et descente dans les débats. C'est parti pour le sommaire. Parlons sport avec le récapitulatif de la saison de la route en cyclisme. Retour sur les faits marquants de cette année, les grands tours, le bilan des cadors du peloton, le bilan des Français, les perspectives en vue de l'année prochaine. C'est dans quelques instants dans Parlons sport. Et focus sur l'un des plus gros clubs de cyclistes de la région parisienne, le Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux. Daniel Gagne, le président de la section compétition, est présent pour évoquer les moments marquants de l'année et ce qui va bientôt se dérouler au sein du VCMB. Voilà pour ce programme. Nous voici lancés pour une heure d'échappée. C'est parti. Bien, messieurs, encore une année forte en émotion et année forte tout court pour le cyclisme, année post-Covid, on le rappelle. On va passer en revue les performances des ténors du peloton, des Français, en passant par les trois grands tours de l'année. Mais Sylvain, si tu ne devais retenir qu'un seul fait marquant cette année sur la route, ce serait lequel ?
Alors, très bonne question, Gilles. Je dirais peut-être Alaphilippe qui sauve la saison du cyclisme français. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il a tiré vers le haut le cyclisme français qui en avait bien besoin.
Et comme ça, Daniel, d'emblée, un fait marquant sur la route cette saison.
Le championnat du monde d'Alaphilippe. Conserver son titre, c'est extrêmement difficile. Et il a gagné plusieurs courses. On sait que quand on a un maillot distinctif, que ce soit un maillot national ou à plus forte raison un maillot de champion du monde, c'est très difficile de gagner des courses parce qu'on est la cible de tous.
Donc Alaphilippe, à l'unanimité, comme ça, pour l'effet marquant de la saison. Alors on va revenir sur le cas Alaphilippe dans le bilan des Français. Mais avant cela, je voudrais qu'on aborde peut-être le bilan des grands tours. Donc on va rappeler que Yann Bernal a remporté le Giro, que Pogacar a remporté à nouveau le Tour de France et que Primoz Roglic a remporté à nouveau la Vuelta. Alors moi personnellement, ce qui m'a dérangé cette année, c'est qu'on a eu des vainqueurs dont le maillot de leader n'a pas été contesté durant la compétition. Bernal n'a pas vraiment eu de concurrence lors du Giro. Tour de France, alors il y a eu un cataclysme chez les concurrents de Pogacar, mais qui s'est imposé haut la main, et pour la Vuelta, eh bien, Roglic n'a pas du tout été inquiété. Donc des compétitions un peu décevantes, d'autant plus que à la fois Bernal et Roglic étaient présents sur le Tour de France pour faire concurrence à Tadej Pogacar, qui remporte son deuxième Tour de France d'affilée dans des conditions beaucoup moins spectaculaires cette saison. Sylvain, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta, finalement des vainqueurs sans surprise, t'en attendais plus ?
Alors c'est vrai qu'on peut à juste titre, Gilles, être un peu déçu par le manque de suspense, mais je pense qu'on est déjà très content d'avoir pu avoir ces compétitions en période de Covid, donc très content que ces compétitions aient pu avoir lieu et pu avoir lieu dans de très bonnes conditions. Après, en effet, sur le spectacle, on peut regretter que, en effet, Roglic, qui était présent sur le Tour de France, chute à la troisième étape et ensuite est extrêmement diminué et donc ne va être contraint à l'abandon quelques étapes plus tard. Donc ça casse un petit peu le suspense parce que après, on a en effet Pogacar qui est vraiment très au-dessus du lot Et donc, on a une belle course tout de même, mais c'est vrai que le suspense pour la victoire finale fait de moins en moins de doutes.
Et puis, enfin, quand on pense à l'Armada qui avait ramené à la fois Roglic, la team Jumbo-Visma, et puis la team Ineos autour de Bernal, on se disait que Pogacar allait être en difficulté, qu'il n'avait pas une équipe assez taillée pour bien lui faire grimper l'école avec un maillot de leader. Et pourtant, Pogacar n'a strictement rien eu à faire. Ce sont les seconds couteaux qui se sont battus au nom des équipes Ineos et puis Jumbo. Vingegaard qui termine deuxième du Tour de France. Donc un jeune coureur, on ne l'attendait pas à ce niveau-là.
Une surprise.
Ouais. Et puis Richard Carapaz qui sera quelques semaines plus tard champion olympique. Qui termine sur la troisième marche du podium, mais pour le team Ineos. Mais ce n'étaient pas les leaders qui étaient donc là présents sur le podium, plutôt les seconds couteaux. Donc échec pour Jumbo-Visma qui avait organisé le tour autour de Roglic et de la team Ineos qui avait concentré un certain nombre de lieutenants pour Geraint Thomas qui était le leader, et il me semble que Bernal ne l'avait pas fait, hein, le tour.
Exactement.
Si ma mémoire est bonne. Thomas, voilà, Geraint Thomas, le leader, oui. Avec Richie Porte, avec je ne sais plus qui d'autre l'avait comme lieutenant, mais bon, c'est finalement Carapaz qui s'est faufilé et qui a été finalement, au vu des circonstances, le leader d'Ineos.
Effectivement, Gilles, et on peut souligner que pour la Jumbo Visma, c'est à nouveau un échec. L'année dernière, ils se font battre vraiment à la toute dernière minute. Ouais. Et donc, cette année, ils reviennent avec beaucoup d'ambition, avec ce jeune coureur Vingegaard, mais qui n'est pas censé être le leader. Malheureusement, la chute de Roglic le propulse. Et finalement, il fait un très bon tour pour un coureur qui n'était pas censé être un leader. Mais en effet, Pogacar est quand même bien au-dessus.
Peut-il être battu l'année prochaine, Daniel Gagne, Tadej Pogacar, sur ce grand tour? Là, avec le recul, quand on se dit quand même qu'on en parlera après, hein, au niveau des transferts, Pogacar renforce aussi sa garde rapprochée. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Ah, de toute façon, une course, elle n'est jamais jouée. Même si c'est un hyper favori, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Ah oui. On a vu cette année, Roglic, normalement, devait jouer les premiers rôles et il a été out très vite.
Tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout que pour 2022, a priori, on aurait Bernal qui serait sur le Tour de France 2022. Donc Bernal, Pogacar et Roglic. Donc, une belle bataille en perspective.
Par contre, Bernal, c'est au niveau de la Vuelta qui s'est complètement raté. Il avait fait la Vuelta, Roglic n'a pas eu de concurrence. Il remporte la Vuelta devant Henrik Maas et puis Jack Egg. Et Guillaume Martin, premier français, 9e. Mais Bernal, on attendait davantage de lui cette saison. Ancien vainqueur du Tour de France, c'est un jeune coureur, on le rappelle, mais on le prédestinait à écraser tous les tours les uns après les autres avant l'arrivée de la comète Pogacar.
Mais effectivement, Gilles, il avait choisi de faire l'impasse sur le Tour de France l'année dernière, au moins cette année, pardon. Mais donc il a remporté le Giro, c'est quand même quelque chose à souligner. Mais en effet, on pouvait en attendre plus, étant donné ce qu'il nous avait montré déjà sur le Tour de France en 2019.
Un autre favori qui vous a déçu, Daniel, ou alors là, les résultats sont plutôt conformes à ce qui était attendu?
Non, de toute façon, pour moi, une course, elle est jamais jouée d'avance. Et donc, les résultats, elle se déroule jamais comme on a prévu. Je suis directeur sportif, je sais comment ça se passe. On a beau expliquer aux coureurs, attention, pas faire ci, pas faire ça, et ça se passe tout autrement. Donc,
ouais, exactement ce qui s'est passé avec Jumbo-Visma. Hein, quand tu ramènes quand même une armada sur le Tour de France, alors... Dumoulin n'était pas là, mais tu avais quand même Wout van Aert, Sepp Kuss, Kruijswijk autour de Roglic. Voilà, il avait quand même une équipe taillée pour la montagne cette année. Et pourtant, bah, rien ne s'est passé comme prévu, comme vous le dites, Daniel. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde la situation de certains ténors qu'on a surtout vus sur les grandes classiques. Tout d'abord, le duel Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, qu'on présente depuis des années, et d'abord sur les circuits de cyclocross. Les deux ont muté et ont évolué, ont fait évoluer leurs caractéristiques de coureurs et font davantage de route. Et à ce duel, Van Der Poel-Van Aert 2021, avantage acquis, messieurs, on va rappeler le bilan général de Van Der Poel. Il remporte l'Estrade Bianchi en début d'année, une étape sur le Tour de France avec le maillot jaune. Quant à Van Der Poel, Gent-Wevelgem, l'Amstel Gold Race, et puis trois étapes du Tour de France pour Van Aert. On aurait pu attendre plus de chacun d'eux, à mon avis, mais quand même un petit avantage Wout Van Aert, notamment sur certaines courses où on a vu que les deux se neutralisaient, et c'est ce qui a fait perdre quand même un certain nombre de victoires sur des classiques où les deux se neutralisaient et puis laissaient finalement la gagne à quelqu'un qui n'était pas du tout favori. Daniel?
Bah, pour moi, c'est deux coureurs qui ont des qualités complètement différentes. Et donc, après les résultats, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a un, c'est vraiment un coureur à panache. Donc, forcément, il en gagne moins, mais quand il gagne de quelle façon?
Van der Poel, vous dites?
Ben oui.
Ouais.
Et puis l'autre, ben, il va vite au sprint, donc il peut prétendre gagner beaucoup de courses.
Ouais, et sacré rouleur aussi, Wout
Oui,
Van Aert.
oui.
Sylvain, sur le duel.
Oui, c'est un duel très intéressant parce qu'on les retrouve en tout début de saison sur le cyclocross où ils s'affrontent sur tout type de temps bons ou mauvais,
ouais.
Voire même sous la neige. Donc, toujours très intéressant de voir en début de saison, mais le début de saison ne veut pas dire forcément ce qui va se passer derrière dans la saison sur route. Donc, toujours très intéressant de suivre cela. Mais là où je vais peut-être dans ton sens, Gilles, ils essayent d'être un peu partout. On a même vu Mathieu Van Der Poel aux Jeux Olympiques en faisant du VTT.
Ouais.
Donc, ils essayent d'être vraiment partout sur le cyclocross, sur la route, voire même sur le VTT. Bon, ça n'a pas souri à Mathieu Van Der Poel qui chute pendant les JO. Mais en tout cas, saison avec quelques victoires, beaucoup de victoires en cyclocross, mais quelques victoires sur route. On peut penser que peut-être avec une meilleure gestion du calendrier, il pourrait faire encore mieux.
Puis, enfin, quelle victoire hein, sur le Tour de France, Van der Poel, avec le maillot jaune, avec la symbolique, avec son grand-père Poulidor. Voilà, on en a fait des caisses et des caisses, donc c'était bien pour la photo. Mais quand même, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que on aurait pu s'attendre à mieux. Et il y a notamment, eh bien, le comment dire, celui qu'on présente comme le futur grand vainqueur des grands tours, Pogacar, qui s'est aussi illustré sur des courses d'un jour, notamment sur Liège-Bastogne-Liège, et sur le Tour de Lombardie remporté par Pogacar. Donc finalement, ce Tadej Pogacar, un coureur assez assez complet, puisqu'il est capable de gagner sur des grands tours, avec ses qualités de grimpeur, de rouleur, mais même sur les courses d'un jour. Alors après, vous allez me dire que comme le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, on a des tracés qui sont favorables à des coureurs, comment dire, qui sont capables d'enchaîner les petits cols. Mais finalement, ce ne serait pas lui, Pogacar, le grand vainqueur, tout simplement. Tout profil confondu, le grand monsieur de cette année 2021.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, Gilles. C'est un coureur qui est extrêmement complet, qui est bon rouleur, bon grimpeur, qui est très bon contre la montre. Donc c'est un coureur extrêmement complet. Et dans l'optique du Tour de France 2022, qui est aussi un tour assez complet, eh ben c'est potentiellement un coureur qui peut être vu comme peut-être le favori pour l'année prochaine.
Alors, je voudrais qu'on aborde une déception. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Hirschi.
Oui.
Marc Hirschi, qui avait fait une super saison 2019 avec le maillot de la Sunweb à l'époque, transféré dans des conditions assez obscures chez Team Emirates, donc l'équipe de Pogacar. Et en 2021, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, Marc Hirschi. Alors que l'année précédente, on le voyait rivaliser quand même sur certains grands tours et sur certaines grandes courses avec Alaphilippe, qui le battait même parfois. On se souvient de cette étape du Tour de France l'année d'avant, remportée par Hirschi devant Alaphilippe. On le présentait comme un potentiel favori lors des championnats du monde de 2020. Et cette année 2021, on ne l'a pas du tout vu, Marc Hirschi. Que s'est-il passé pour lui, Sylvain?
Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu et je n'ai pas la réponse, Gilles. Marc Hirschi complètement disparu des radars. Mais à l'inverse, on a vu un coureur réapparaître qu'on avait peut-être là aussi oublié, Cavendish. Donc, d'un côté, ouais. Hirschi qui disparaît et de l'autre, Cavendish qui fait son grand retour à 36 ans. Donc, deux perspectives cette année complètement différentes, complètement inversées. Hirschi qu'on voit plus du tout et Cavendish qui revient au sommet.
Cavendish qui a remporté un certain nombre d'étapes sur le Tour de France. Il a battu le record de victoires au total d'étapes sur le Tour de France. Il a prolongé son contrat d'une saison avec la Quick-Step et on peut s'attendre encore à ce qu'il batte les nombreux Français au sprint au Tour de France l'année prochaine.
Alors pas forcément Gilles, parce que a priori son directeur sportif privilégierait un autre coureur pour faire les sprints au Tour de France, donc pas sûr que Cavendish soit là. Ce serait peut-être plutôt Philipsen qui serait sur le Tour de France 2022.
Bon, ils sont pragmatiques aussi, la Quick-Step. Hein. Ils peuvent embarquer deux sprinteurs et puis ensuite juger en fonction des circonstances. Daniel ?
Pas sûr. Parce qu'après, il y a des rivalités, des égos à gérer. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment que les choses soient claires au départ, qui est le sprinter. Il faut savoir que dans les équipes pro, les 20 derniers kilomètres, c'est toute l'équipe qui travaille pour le sprinter.
Un avis sur Marc Hirschi, quand on sait qu'on ne l'a pas vu cette saison?
Changement de club, changement de,
d'équipe,
changement de maison.
D'environnement.
Oui, ouais. Environnement, mais après...
Un plus gros contrat, mais...
Oui, mais après, bon, il faut une adaptation à de nouvelles conditions. Et l'adaptation, c'est peut-être mal faite, tout simplement. Et comme aujourd'hui, c'est tellement pointu, ça se joue tellement à pas grand-chose, que vous avez un coureur qui marche ou qui ne marche pas.
Bon, on va maintenant aborder le cas des Français. Messieurs, l'heure est grave. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. C'est quand même Julien Alaphilippe qui remporte à nouveau la Flèche Wallonne cette année. À nouveau une étape du Tour de France avec le maillot jaune. Première étape du Tour de France. Il a le maillot jaune. On s'attendait à le voir un peu plus longtemps avec le maillot jaune. Finalement, le lendemain, c'est Van Der Poel qui lui met une attaque lors de la dernière montée à la Philippe est largué. Donc il ne le portera qu'un seul jour à la Philippe cette année, le maillot jaune sur le Tour de France. Et puis, championnat du monde, effectivement à la Philippe qui conserve sa couronne. Et avec quel panache, vraiment, il a réalisé une course incroyable en attaquant à plusieurs reprises. Donc il est allé la chercher, cette deuxième couronne. Il ne faisait pas forcément partie des grands favoris de la course. Et vous l'avez dit, il est difficile de gagner deux fois le championnat du monde sur des profils de course aussi assez différents. Parce que bon, Sagan l'avait fait trois fois. Mais trois fois sur des sprints. Là, on avait quand même des parcours différents avec des équipes bien plus préparées. Et Alaphilippe, à chaque fois, qui allait la chercher et cette année encore plus que l'année dernière. Bilan de l'année Alaphilippe, messieurs, Sylvain, plutôt déçu, bilan plutôt convenable. On rappelle quand même qu'il va sur ses 30 ans.
Très, très bon bilan pour moi d'Alaphilippe. Déjà, donc, tu le disais, Gilles, cette victoire à nouveau au championnat du monde. Donc il faut dire pour tous ceux qui nous écoutent que c'est une des seules courses pendant la saison où on court par nation. Donc c'est-à-dire que vous courez avec des coureurs avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de courir. Vous courez avec les coureurs français et non pas avec votre team habituel. Donc déjà, une difficulté supplémentaire. Vous courez et vous êtes dans une équipe où vous n'avez pas forcément l'habitude de courir tous les jours. Et ensuite, il faut aller la chercher une deuxième fois, en effet, sur des tracés différents, alors que vous avez le maillot arc-en-ciel et que tout le monde vous attend. Donc, en effet, très grosse performance de rééditer ça. Et Julien Alaphilippe, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que il arrive trois fois par saison à être au top de sa forme. Au début, aux courses flandriennes, ensuite au Tour de France, et enfin en fin de saison sur les championnats du monde. Donc c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire, avoir trois pics de forme comme ça dans l'année.
Daniel, sur Alaphilippe.
De toute façon, il a rempli ses objectifs. Hein, oui. Et il avait annoncé clairement qu'il voulait être de nouveau champion du monde. Et il l'a fait.
Donc il était là quand il fallait être là.
Ce qui n'est pas évident.
Mais finalement, il n'a pas opéré le virage à Alaphilippe, le virage « je suis leader d'une équipe sur un grand tour » et a priori ne le fera pas. Est-ce que ça reste pour vous quand même l'une des déceptions pour vous quand vous regardez la trajectoire du bonhomme, Daniel ?
Non, c'est pas. Il est très réaliste. Il se connaît. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Donc si un jour il y a un profil de Tour de France qui lui convient vraiment, ce jour-là il dira c'est moi le patron.
Tout à fait, c'est ça. Il est limité dans les grands cols, mais le jour où il y a un Tour de France qui est pas trop dur en termes de montagne, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Ce serait quoi un profil qui lui conviendrait à Alaphilippe ? Pas de contre-la-montre en côte, des contre-la-montre courts, du plat, éventuellement un contre-la-montre par équipe.
Non, je pense des profils genre massif central, trucs comme ça.
Oui, tout à fait. Pas trop d'enchaînement de montagne. Il arrive à se mettre dans le dur sur une étape de montagne, étapes, mais quand on enchaîne l'école, ça, c'est là que ça devient difficile, et surtout des cols de haute montagne enchaînés, c'est là où il va craquer.
Mais en même temps, enfin, jouer un grand tour et ce serait le Tour de France, c'est quand même risqué pour lui dans la mesure où il n'a jamais joué de grand tour, ni le Giro, ni la Vuelta. Dans le profil un petit peu ressemblant à Alaphilippe, Laurent Jalabert, qui était un coureur de classique avec des caractéristiques assez similaires, peut-être un peu moins puncher, un peu plus rouleur, mais aussi à l'aise dans la montagne. Il avait fait la Vuelta pour la gagner, il a gagné la Vuelta. Il a fait des résultats probants au Giro, donc il avait quand même à son actif des qualités et puis des atouts pour dire voilà, je veux gagner le Tour de France, j'y vais en leader. Ce qui n'est pas le cas d'Alaphilippe. Il n'a jamais participé réellement pour la gagne sur un grand tour de 3 semaines.
Oui, mais bon, si on prend l'exemple de la Vuelta de l'époque de Jalabert à la Vuelta de maintenant, ça peut rien avoir. Aujourd'hui, la Vuelta, c'est des courses de côte en permanence.
Attendez, moi j'ai une question, une question de néophyte. Hein, vous me dites, Alaphilippe ne peut pas gagner un tour s'il y a trop d'épreuves de col. Mais comment on peut porter le maillot jaune et envisager de gagner si on n'est pas bon à la montagne?
Tu ne peux pas
gagner le Tour de France si tu sais pas, si t'es pas bon en montagne.
C'est pas qu'il est pas bon, mais il peut pas supporter physiquement un enchaînement de cols pendant 4 jours.
Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'est qu'il est pas mauvais en montagne, hein, il est plutôt bon, mais il y a toujours une dizaine de coureurs qui sont bien plus forts que lui.
Oui,
donc on axe toute sa préparation et toute sa saison sur la montagne et on essaye de faire une performance quitte à sacrifier d'autres objectifs, ou alors on veut quand même jouer les autres objectifs et on peut pas axer toute sa saison sur la montagne.
Oui, parce qu'on est d'accord que Alaphilippe gagne toujours le maillot jaune au départ du Tour de France.
Tout à fait.
Donc il y a peut-être un problème de préparation aussi s'il se fatigue ensuite à la montagne.
Non, mais on peut pas tout faire. Un coureur, il peut pas être performant 360 jours par an. Donc en fait, y a des objectifs bien précis et on se prépare sur des objectifs bien précis. Si on veut se préparer sur le Tour de France, on fait une croix sur plein de choses qu'il estime aujourd'hui, lui, pouvoir gagner et qui lui assure sa saison et sa renommée. Et s'il gagne pas le Tour de France, on va dire à Alaphilippe, il a rien fait.
Alors selon vous, Daniel, si on veut voir Alaphilippe Perrand sur le Tour de France, quelles sont les courses où l'on ne devrait pas le voir? Les classiques flandriennes, le championnat du monde en septembre
Le championnat du monde en septembre, il risque d'être lessivé.
Ouais.
Parce qu'il n'aura pas récupéré forcément complètement du Tour de France. Et puis, les classiques flandriennes, ce n'est pas la meilleure préparation. Hein.
Bon, en même temps, il y a un calcul à faire. Hein, quand vous voyez les autres concurrents, même à la Philippe en grande forme, très bien préparé, est-ce qu'il peut faire quelque chose contre un Pogacar mieux entouré,
Oui, mais
mieux gestionnaire de course.
il est pas sûr de gagner.
Oui.
Voilà, donc s'il perd deux ou trois grandes courses et qu'il passe à, et que d'un autre côté il passe à côté du Tour de France, il a tout perdu.
Ouais.
Et bon, il a aussi un patron, un sponsor
Ouais.
qui met de l'argent et qui dit, moi je veux voir mon nom, machin, etc. Donc il faut que
Ouais.
tu brilles dans les courses. Hein.
Comme il y a un monstre en face, il privilégie peut-être des courses un peu mineures par rapport au Tour de France,
Ah
mais
non, ils ne sont pas mineurs.
par rapport au Tour de France.
Ah, c'est le Tour de France, c'est le Tour de France, mais y a, tout le monde rêve de gagner un Paris-Roubaix, par exemple.
Ouais, donc il y a aussi la volonté du sponsor, vous dites, Daniel,
Ah ben...
où la De Koninck Quick Step est une écurie qui va aller chercher la gagne sur chaque course.
Ben, c'est sûr.
Et donc Alaphilippe est l'un des meilleurs atouts de l'équipe sur certaines courses.
Ben oui.
Bon. Tout à fait. Et en plus, ça rapporte pas mal de points d'UCI quand vous gagnez des courses. Donc, il faut pas que viser le Tour de France parce que si vous ratez, eh ben, les points UCI, vous n'en avez pas beaucoup. Et ensuite, eh ben, il faut être dans les tout meilleurs pour être dans la première division, entre guillemets, dans le World Tour. Donc, c'est très important de ne pas axer toute sa saison pour une équipe uniquement sur une course et de réussir à avoir des points tout au long de la saison.
Et puisqu'en cas de coup du sort,
Ah,
des
une
mauvaises
chute,
chutes, voilà,
ça suffit.
trop d'aléas pour faire all-in sur un tour. Bon, Alaphilippe, on va le suivre bien sûr en 2022 à nouveau avec un maillot arc-en-ciel. Alors, ce n'était pas le seul Français qu'on a suivi sur cette année 2021. Il y en a un qui m'a particulièrement déçu. Vous allez dire ce que vous en pensez, c'est Benoît Cosnefroy, celui qu'on présente comme un futur grand coureur de classique, en tout cas quelqu'un qui peut incarner la relève après Alaphilippe. Il a ces 2, 3 dernières années souvent accumulé les deuxièmes places sur des courses très intéressantes, notamment sur la Flèche Wallonne quand Alaphilippe n'était pas là. En tout cas, souvent placé, Cosnefroy, mais pas encore titré sur des grandes courses. Et pour moi, donc, il n'a pas confirmé toutes les attentes qui étaient placées en lui. Benoît Cosnefroy, le coureur d'AG2R Citroën. Daniel.
Oui, mais il faut savoir que bon, le niveau international, la concurrence internationale est énorme. Et déjà, quand on rentre dans les 5-6 premiers de grandes courses comme ça, pour un Français, c'est un exploit.
Oui, parce qu'il faut dire que au départ, souvent, il y a 180 coureurs.
Oui,
Donc,
ouais.
c'est-à-dire qu'il faut non seulement être parmi les meilleurs, avoir un peu de chance parmi la course, être bon stratège, avoir la bonne tactique, et en plus, pouvoir finir et gagner la course. Donc, très difficile, en effet.
Donc victime de la concurrence trop importante, Cosnefroy. Mais c'est quand même problématique pour un coureur de son âge, qu'on suit particulièrement. D'être en termes de résultats sur une évolution pas très rassurante. On l'a peut-être vu avec moins de jus aussi dans le comportement sur certaines courses, Benoît Cosnefroy. Non, c'est pas l'impression qu'il vous a laissé, Daniel?
Non, personnellement non, mais bon, ça n'a pas été sa meilleure saison, mais la réussite,
Ouais, ça se joue tellement à peu de
ça
choses
joue tellement un peu de choses.
parce qu'il y a tellement de Français que quand on réfléchit aux années précédentes qu'on présentait comme le futur gagnant du Tour, le futur gagnant de toutes sortes de courses. Et finalement, c'est des coureurs qui sont bons, qui ont fait des résultats, mais qui ne sont pas parvenus à être au top du top. Oui, peut-être.
Le sport, c'est une pyramide. Bon, ben, il a un niveau qui n'est pas forcément le dernier niveau. Et quand on n'est pas au tout dernier niveau, au dernier niveau, ils sont 4, 5. Voilà. Et quand on n'est pas à ce niveau-là, ben, c'est difficile de gagner derrière.
Messieurs, une question. Où sont nos grimpeurs français, où sont-ils?
Alors j'ai regardé un petit peu ce que les Français avaient fait sur les 3 tours. Donc on a sur le Tour de France un Guillaume Martin qui
Ouais.
termine 8e, un David Godu 11e. Donc on pourrait dire, et comme tu le disais tout à l'heure, un peu décevant, mais d'un autre côté, faire un top 10 dans un grand tour. Et pour David Godu, c'était presque, donc 11e. C'est quand même une grande performance. Alors bien sûr, on n'en parle pas beaucoup, on trouve que c'est décevant, mais il est quand même arrivé sur 180 coureurs dans les 10. On attend toujours plus, mais c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas de Français en mesure de gagner le Tour de France. Et je pense que ce sera vrai encore pour 2022. Mmh. Aujourd'hui, je suis incapable de vous citer un coureur français qui serait en mesure de gagner le Tour de France.
Non, Thibaut Pinot. Non, je rigole. Non, mais c'est souvent, voilà, on parlait de parcours type de Tour de France pour avantager certains coureurs. Il y a eu certaines années où on disait « Ah, c'est un tour pour Thibaut Pinot, ça oui. ». Et puis finalement, bah, Thibaut Pinot, malheureusement, là, je ne sais pas si on le reverra à son meilleur niveau, malheureusement.
Même si on le revoit à son meilleur niveau, je pense que si, on pourra le revoir à son meilleur niveau, mais... vous avez des coureurs qui ne tiennent pas 3 semaines, la pression qu'il y a pendant 3 semaines. Et je pense qu'il en fait partie. Voilà. C'est pas une question forcément de physique, c'est une question de mental.
Est-ce que le point de non-retour n'a pas été atteint avec Thibaut Pinot, lui, et puis sa santé mentale, puisque vous l'avez dit, ses problèmes physiques sont avant tout dus à des problèmes de gestion de stress pour lui.
Oui, mais ça... je veux dire, on le sait, hein, le vélo, c'est les jambes, mais c'est autant la tête que les jambes. Mmh.
Mais le temps passe, c'est ça le problème pour Thibaut Pinot.
Ah ben oui, mais bon, s'il rate le train, il rate le train. Hein.
Bon, en tout cas, on désignait David Gaudu comme le successeur de Thibaut Pinot, comme le coureur pouvant être très fort dans la montagne. Mais on le disait déjà, il y a 4 ans, on le disait aussi il y a 3 ans, on le disait il y a 2 ans, on le disait l'année dernière, et puis finalement, il fait pas top 10 d'un Tour de France. On attend beaucoup mieux de David Gaudu.
Ouais, mais bon, il n'est pas si vieux que ça, lui.
Oui, mais encore une fois, quand je vous parlais de trajectoire tout à l'heure, on est plutôt sur une stagnation.
Mais c'est le niveau français.
Oui.
Si vous voulez. On voit, on est très bon chez les juniors et dès qu'on sort des juniors, on n'est plus là. Alors
comment vous l'expliquez ?
Il n'y a pas
les bonnes structures d'entraînement.
Je ne sais pas. Apparemment, il y a des choses que les étrangers savent faire et que nous, on ne sait pas faire.
Bon, Sylvain, sur David Gaudu.
Oui, sur David Gaudu, en effet.
11e place, mais ce n'est pas un top 10. Et puis, tu ne le vois pas... Enfin, il y a des coureurs à chaque fois dans le top 20, et c'est le cas de Guillaume Martin, qui se font totalement larguer dès la première semaine, qui réussissent à se glisser dans une échappée sur la deuxième semaine et qui réussissent à prendre 15-20 minutes comme ça et qui se retrouvent d'un seul coup dans le top 10. Oui, et donc finalement, ce n'est pas vraiment révélateur du fait qu'ils étaient vraiment à l'attaque avec les meilleurs sur les cols décisifs.
Oui, mais en fait, ils se font larguer la première semaine volontairement pour pouvoir justement... Parce que sinon, s'ils ne sont pas largués, ils ne peuvent pas partir dans une échappée. Hein.
Ouais, mais enfin...
mais c'est comme ça, là, malheureusement.
Ouais, ça, c'est pour les coureurs qui ne jouent pas le classement général, en effet. Ouais. Parce que si on joue le classement général, on va essayer de ne pas se faire détacher la première semaine. Mais si on veut gagner une victoire d'étape, on a tout intérêt d'être assez loin pour pouvoir partir.
Comme Gaudu.
Donc Gaudu, par contre, lui, normalement, s'il joue le général,
il ne pouvait pas partir.
Lui, il doit faire très attention
la
première semaine.
Il doit résister, il ne peut pas se faire larguer comme ça dès les premiers cols.
Tout à fait. S'il veut jouer le classement général, il faut ne pas prendre de bordure. Il faut faire très attention aux chutes, être bien placé. Et ensuite, dans la montagne, il faut être devant. Et il ne faut bien sûr pas se faire lâcher dans les premiers cols. Et on serait tenté de lui donner du temps, de dire, bon voilà, encore un an, 2 ans, 3 ans. Mais quand on regarde les jeunes qui sont là, je regardais un petit peu les âges des différents coureurs. Vous avez Egan Bernal qui a 24 ans, Pogacar qui a 23 ans. Donc, ce n'est pas forcément qu'une question d'âge. Et rien ne dit qu'en vieillissant, que David Gaudu deviendra meilleur qu'eux.
Ouais, c'est plutôt inquiétant ce que tu dis alors.
Ah oui, plutôt, oui.
Et alors, on l'a peut-être oublié un peu vite, mais Romain Bardet, 7e du Giro, avec une équipe étrangère cette fois-ci. Il a quitté la famille AG2R. Oui. Finalement, est-ce que le problème de nos coureurs français ne serait pas simplement les structures, les méthodes de travail avec les équipes françaises? Et on se souvient à l'époque... que quand Warren Barguil quitte la Sunweb, il était prédestiné à être très fort sur les prochains grands tours, potentiellement sur le podium. Il revient en France, Warren Barguil, Il l'a dit lui-même dans certaines interviews qu'il a perdu en rigueur et en méthode de travail. Et ça s'est vu après sur les grandes courses, où il n'était plus là.
Difficile de faire une généralité de Français qui ont plutôt intérêt à rester dans les équipes françaises ou à partir à l'étranger pour se développer. Je pense que chaque équipe est vraiment différente. Et donc, il y a aussi certains coureurs qui sont mieux dans une structure française, une structure un peu familiale, une structure où ils se sentent bien. Ils sont proches de leur famille.
Alors ça a été le cas de Barguil, mais au détriment de la performance, c'est ça le problème.
C'est toute la difficulté. Certains coureurs ont peut-être besoin d'avoir d'autres types de structures et des structures peut-être beaucoup plus financées comme certaines structures par exemple anglaises.
Quelques mots sur les transferts donc pour l'année prochaine. Alors pas de gros transferts flamboyants. Peter Sagan, tiens, qui rejoint une équipe française, Total Energy. Peut-être un semblant de retraite pour lui. Pour rappel, hein, quand il y a eu des grandes stars dans les équipes françaises, ça n'a pas franchement marché. Je suis plutôt dubitatif sur ce transfert. Mais on a la team Emirates, donc l'équipe de Pogacar, qui se renforce avec Almeida, le portugais, Georges Bennett, Marc Soler. Donc que des grimpeurs qui vont l'aider sur le prochain Tour de France. Qu'est-ce qu'on a encore du côté des Français? Christophe Laporte qui rejoint la Jumbo-Visma. Ça m'étonnerait qu'on le revoie sur le Tour de France a priori. Et puis Brian Coquart qui rejoint la Cofidis. Est-ce que ce sont des transferts qui vous évoquent certains pronostics pour l'année prochaine? Moi je suis plutôt dubitatif, hein, comme je vous l'ai dit là pour Sagan. Je pense que ça a très bien marché pour la team Emirates. Ensuite pas de grand chamboulement, on va le dire, messieurs, pour avenir. Pour cette prochaine saison.
Non, mais par contre, moi, je trouve intéressant pour une structure française comme Total Direct Energy, le fait de pouvoir attirer un coureur comme Sagan qui fera profiter de son expérience. Il faut dire aussi que Total Direct Energy est qualifié, en tout cas, à terminer troisième du classement Pro Team. Et donc, ça leur donne accès à toutes les courses UCI sur un jour. Donc, on pourra voir Sagan sur toutes les courses de un jour. Donc, pour lui, ça lui permet d'être toujours là. Et ensuite, je pense que pour l'équipe, c'est un modèle un peu de professionnalisme, un modèle de longévité. Donc, je pense que c'est un peu gagnant-gagnant.
On va voir si ça gagne toujours du côté des équipes françaises.
Il ne gagnera pas forcément des courses, mais je pense qu'il apportera beaucoup à son équipe. Hein. C'est un coureur d'expérience et de talent, en plus. Donc...
Bien, messieurs, merci à vous. On a fait le tour pour cette saison 2021 de cyclisme. On va bien sûr vous garder, Daniel. Quelques mots de présentation du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, une grosse structure régionale, une grosse structure au niveau de la région, mais située dans les Yvelines. Environ 500 adhérents, c'est ça? Pas vraiment impacté par le Covid, dites-nous en plus.
Si. Tout le monde est impacté par le Covid, ça c'est clair. Moi, sur la section compétition, j'ai perdu 20 licences, donc c'est pas rien. Mm-hmm. Et en plus, on a forcément des trous dans les jeunes qui arrivent derrière. On va se récupérer dans 2 ans ou dans 3 ans. Il n'y a pas de mystère. Hein.
Alors, on va rappeler la particularité du club qui est divisé en 3 sections. Une section compétition que vous présidez, une section cyclotourisme et une section VTT. Mmh. Laquelle de ces sections attire le plus de sportives et de sportifs?
C'est le cyclotourisme.
Le cyclotourisme.
Mmh. Ouais, maintenant, ils sont presque à égalité avec le VTT parce que le VTT a une grosse école de jeunes, mmh, où il y a quand même 70 gamins. Donc,
Alors, c'est quoi la différence entre la section compétition et la section cyclotourisme?
Les cyclotouristes, déjà, si vous voulez, la moyenne d'âge, c'est peut-être 55 ans, et la section compétition, c'est 20 ans ou 24
plutôt
ans.
Une section vélo-loisir.
Le cyclotourisme, c'est des loisirs, c'est de la promenade, etc. Mmh. La compétition, on se met un dossard sur le derrière, et un, deux, trois partaient.
Donc, avis aux amateurs de promenade en vélo, hein, pour la section cyclotourisme. On va s'attarder avec vous, Daniel, sur la section compétition. Bilan de l'année 2021, 103 courses, 19 victoires, ouais, 2 titres régionaux.
Oui, c'est même...
C'est plutôt un bon bilan, ça?
C'est un bon bilan, 55 podiums quand même.
Oui.
Sur 103 courses, ça fait quand même. Effectivement, ouais. Ça fait une course sur deux où il y a un coureur de Montigny sur le podium. Donc, quand même. Oui, non, ça aurait pu être une année exceptionnelle si elle avait été complète, parce qu'il faut dire qu'on a commencé à courir au mois de, pratiquement à la mi-juin. Donc, c'est quand même une année pour nous très, très, très récente. Mm-hmm. Une année normale, c'est pas 103 courses, c'est 200.
Oui, donc il n'y a pas eu un effet de report de courses. Il y a eu des courses annulées.
Il y a un nombre de dimanches calendrier, il a fait comme ça.
voilà. Et puis, alors, vous participez à toutes les courses organisées par les différentes fédérations.
Non, pas toutes les fédérations. On n'est que dans deux fédérations, la FFC et la FFGT. Mais bon, l'activité principale, c'est la FFC. Mm-hmm. Le niveau, c'est la FFC. La FFGT, c'est plus de la compétition. Sans être péjoratif, c'est de la compétition plus loisir. Si vous prenez le départ d'une course FFGT où il y a 70 personnes, il y a 5 coureurs qui peuvent gagner. Si vous prenez la même course en FFC, il y a 40 coureurs qui peuvent gagner.
Un niveau de compétition plus relevé en FFC.
Oui. Ouais. Ça n'a rien à voir.
Un fait marquant cette année, un point positif et puis une déception pour le VCMB compétition, ce serait quoi?
Le fait marquant, c'était les résultats des cadets. En cadet, il y a eu 3 titres décernés, un sur piste pour l'Omnium où on fait premier, troisième, un sur route où on fait premier, troisième, et un par équipe où on gagne. Donc, je vois pas ce que... Là, c'est vraiment exceptionnel. Maintenant, la victoire qui m'a fait le plus plaisir, c'est certainement la victoire de Gabriel Le Propos au Signal des Coupes, qui est une très grosse course nationale junior.
Dans l'Orne.
Où il gagne tout seul en lâchant tout le monde sur le plat alors que c'est un grimpeur.
Ouais, c'est un parcours un peu sinueux quand même, non?
Un parcours qui est très difficile parce qu'il y a des bosses très difficiles, sauf qu'elles sont loin de l'arrivée. Et que pour redescendre, pour revenir à Alençon, il y a pratiquement 20 km de faux plat descendant. Donc généralement, les échappées qu'il y a avant, on ne les revoit pas. Et la course se joue sur un circuit final dans Alençon qui est pratiquement tout plat. Et où il y a un tout petit bout de... Mais ce n'est même pas un raidillon, c'est un faux plat qui monte légèrement. Et une fois sur 10, c'est là que ça se joue, à la pédale.
Alors comment s'est construite cette victoire? Comment est-ce qu'on accompagne des coureurs à l'approche d'une course? C'est quoi? Est-ce qu'on est sur une grosse structure avec un directeur sportif du VCMB qui se déplace à chaque fois?
Ça, c'est des courses où on déplace une équipe de 5 coureurs. Hein. Mm-hmm. 5 coureurs, un directeur sportif, un mécano dans la voiture, la même chose que ce que vous voyez chez les pros, mais à un niveau moindre.
Et alors, tout s'est passé comme prévu, selon le plan
Tout s'est passé mieux que prévu. Ouais. Mais de toute façon, c'est la course. Hein. Moi, j'aurais pas parié que ce jour-là, la course allait se disputer de la façon dont elle s'est disputée. Mais c'est comme je vous ai dit. De toute façon, quand on peut expliquer tout ce qu'on veut, ça ne sera jamais ce qu'on a prévu.
Et alors, comment ça se passe quand vous suivez des courses? Est-ce que c'est vous qui donnez des consignes? Est-ce qu'il y a des consignes avant course et après le coureur est libre de...
Je ne suis pas partisan de brider les coureurs, surtout à cet âge-là. On a fait un flop, comme ce n'est pas possible au niveau de l'Île-de-France, au niveau du championnat de France, qui était organisé... par le comité Île-de-France, donc sur notre territoire, on n'a pas été foutu de ramener une seule médaille. Tout simplement, par exemple, au niveau des cadets, où on avait une équipe compétitive, et où on a donné des consignes aux coureurs, j'ai pas mon mot à dire, puisque j'avais pas mon mot à dire, mais jamais on pouvait donner des consignes comme ça. C'est pas possible.
Alors, en parlant de consignes, il y a les oreillettes ou pas sur les courses en amateur? C'est interdit ou c'est une question de moyens?
C'est interdit. Sauf sur les contre-la-montre. Les contre-la-montre, on y a droit.
C'est quoi la justification? C'est
bah, de toute façon,
le fait de guider un petit peu pour pas qu'il se
fasse tout seul. Il y a plus de course. Si vous voulez. Ben, pour moi, il y a plus de course avec des oreillettes. On est dans la voiture, on a la liste des concurrents, on a la liste des échappés. C'est pas comme ça qu'on va apprendre à un jeune à courir. vous lui dites, bah, là tu bouges pas, là tu vas, là t'envoies un machin. Ouais.
Non, ça se justifierait c'est... davantage dans le milieu professionnel, le fait qu'il y ait des oreillettes, ou vous êtes totalement contre Daniel Gagne?
Moi, je suis plutôt contre, d'une ouais, façon générale. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, le championnat du monde, il n'y a pas d'oreillettes, et on a une autre course.
Gabriel Leprovost, donc, qui est arrivé tout jeune hein, au VCMB, ouais, ouais. Il sera toujours là ou pas l'année prochaine?
Ah bah non, là, il va rejoindre une DN1, ce qui est normal. Hein.
Alors, une DN1, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi?
Après, disons qu'au niveau du cyclisme amateur, il y a des divisions nationales, comme première division, deuxième, troisième division, donc DN1, DN2, DN3. Donc là, il est pris dans une DN1. Après, ce sera à lui de continuer sa voie.
Donc c'est prometteur pour la suite.
Oui, ben, il a du boulot, mais pour moi, il a un potentiel énorme. C'est un coureur qui peut être un futur leader chez les pros. Voilà. Alors, c'est un grimpeur, par contre.
Ouais.
Est-ce que je peux vous dire que
je peux vous dire besoin de grimpeurs.
Je peux vous dire que sur un col de 20 km, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rester dans sa roue.
Ça sent bien. Bon, je poserai quelques questions après hein, sur les méthodes d'entraînement dans le coin, mais toujours là pour qu'on fasse le focus sur les résultats du VCMB. Au niveau du cyclo-cross, pareil, chez les cadettes, on a eu une championne Île-de-France.
Oui. Ben, c'est la. Ouais, disons, pour moi, c'est pas une surprise, mais c'est la bonne surprise de ce début de saison en cyclo-cross, puisque on a une fille, on n'en a qu'une.
Donc Maya.
Maya, ouais. qui est cadette, et qui a commencé le cyclo-cross. Le championnat, c'était son sixième cyclo-cross. Bon. Il faut dire qu'en Île-de-France, elle n'a pratiquement pas de concurrence. Le premier cyclo-cross, elle fait deuxième à 5 secondes de la première, mais elle avait un boyau qui se décollait, donc elle s'est arrêtée au moins 6 fois pour le remettre sur sa roue. Après, elle a gagné tous les autres cyclo-cross en Île-de-France. Le premier cyclo-cross, disons un peu relevé, qu'elle ait fait, c'est à Wissou, la Coupe de France des minimes cadettes zone nord, où elle fait troisième. Et là, ce week-end, on était à 3. Donc, à la dernière manche de la Coupe de France de cyclo-cross, où elle fait 16e en étant tombée à 250 mètres de la ligne, où elle a perdu 5 places, parce que le temps qu'elle a fini à pied.
Alors, par rapport aux vocations qu'il y a au niveau du VCMB, on a vu ces dernières années qu'on a quand même beaucoup plus de médiatisation de manière générale du VTT, du cyclo-cross, notamment chez les féminines. Est-ce que ça vous apporte davantage de licenciés dans ces sections-là? Est-ce que vous voyez que les compétiteurs peut-être davantage mieux répartis en fonction des disciplines?
Non, parce que nous, on travaille beaucoup quand même sur les jeunes. Et les jeunes, de toute façon, on ne les spécialise pas. Disons, ils ont une activité hivernale et une activité été.
Mais les jeunes peuvent aussi s'identifier à des modèles, à des stars, Prévost, Loana Lecomte. J'imagine que ça donne envie à certaines jeunes filles.
C'est sûr qu'elles ont toutes plus ou moins des modèles. Il n'y a pas de souci. Donc, mais c'est... malheureusement, les cyclistes féminins, elles ne sont pas assez nombreuses.
Et alors, cette fois-ci, pour se projeter un petit peu sur la saison à venir, vous avez donc enregistré le retour de Yann Leboudec, entraîneur au Pôle France chez les féminines, qui oui. était d'ailleurs auparavant licencié au sein du VCMB.
Oui. C'est un des jeunes que j'avais. lorsqu'on a créé la section compétition.
Donc une bonne nouvelle, j'imagine, pour le club.
Oui, oui, ben, je suis très content que Yann soit revenu. De toute façon, il a suffisamment d'expérience à nous apporter.
Alors concrètement, comment est-ce qu'il va pouvoir vous aider l'année prochaine? Il sera dans l'encadrement,
Non, il est venu pour pouvoir faire un peu de compétition quand il ne sera pas prêt avec les diverses compétitions de l'équipe de France. Mm-hmm. Mais ben, sur les courses, il a une certaine expérience et ça me permettra d'encadrer les jeunes.
Alors quand on fait de la compétition au VCMB, comment est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'on est toujours sur des sorties collectives ou alors avec beaucoup de préparation individualisée?
Ça dépend tout des catégories.
Ouais, la route, par exemple.
Non, mais ça dépend si c'est au niveau d'adultes ou de jeunes. Mmh. Au niveau des jeunes, il y a des entraînements encadrés tous les mercredis, tous les samedis, pendant toute l'année. Ça pose pas de problème. Au niveau des adultes, il y a des entraînements encadrés uniquement le dimanche matin, parce que les gens y travaillent, donc c'est impossible de dire on fait entraînement le mercredi à 14h.
Ouais.
Voilà, donc chacun après fait en fonction de ses possibilités, de ses horaires. C'est sûr que l'hiver, c'est pas la période la plus favorable pour les gens, parce que nous, on a besoin quand même de rouler quand il fait jour. Rouler la nuit, c'est pas très agréable.
Alors après, si on se projette vraiment dans le futur, si je suis jeune et que j'arrive au VCMB, est-ce que j'ai des chances de pouvoir développer des caractéristiques de grimpeur et de sprinteur pour aller au plus haut niveau? Est-ce qu'on a en Île-de-France les parcours adéquats pour pouvoir progresser sur certaines caractéristiques, pour pouvoir développer des qualités de grimpeur notamment?
Non,
c'est pas possible. Il n'y a pas de montagne, donc c'est pas possible.
Oui, quand les côtes les plus longues faisant à peine 2 km, c'est difficile de faire un peu grimpeur. Mais le problème, c'est que on a des gènes qui font qu'on a des qualités ou qu'on ne les a pas. On est naturellement sprinter, après faut le travailler, faut le développer. On est naturellement grimpeur ou on l'est pas, ou on est rouleur. Moi, quand j'étais coureur, j'étais bien dans des bosques tant qu'on était sur le grand plateau. Dès qu'il fallait mettre le petit plateau, c'était fini. Par contre, j'étais un très bon rouleur.
Bon, et toi, Sylvain, t'étais prédestiné à quoi?
Ah, moi, j'étais plutôt rouleur. J'aimais pas trop quand ça montait. Mais c'est vrai que vous le disiez très bien, on a des qualités intrinsèques et ensuite, il faut les travailler. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est au niveau des jeunes et pour tous ceux qui nous écoutent, apprendre à courir, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas juste faire du vélo, on apprend à courir, on apprend les stratégies, on apprend à bien se placer, on apprend à se protéger du vent, on apprend à rouler en peloton. Vous pourrez sûrement le dire beaucoup mieux que moi, mais ça s'apprend en fait de courir.
Mais bien sûr, et puis il y a des techniques à acquérir, quoi. Il y a pas de mystère. Là, pareil, en cyclocross, je vois. Si on parlait de Maya tout à l'heure, Maya il y a un mois et Maya maintenant, ça n'a rien à voir parce qu'on a travaillé de la technique et qu'elle a certains gestes techniques qu'elle sait faire, qu'elle ne savait pas faire avant.
Et donc ça, vous leur transmettez à chaque entraînement, et c'est pour ça aussi que c'est important de faire des cours collectifs.
Bien sûr.
Alors, on va parler un peu de pistes maintenant, puisqu'en termes d'infrastructure, on va bientôt fêter les 7 ans de l'inauguration du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Donc grande enceinte, on retrouve tous les professionnels de la piste, tous les pistards français s'entraîner au quotidien, quand ils le peuvent en tout cas. Est-ce qu'on a assez de recul là 7 ans plus tard pour estimer l'impact que l'enceinte a eu sur les clubs aux alentours, un grand club comme vous? Qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement du VCMB avec le Vélodrome?
La section compétition est née avec le Vélodrome, c'est pas compliqué. C'est le Vélodrome qui a fait qu'on a eu une section compétition qui s'est créée, sinon elle n'existerait pas.
Donc le Vélodrome vous sert de structure d'entraînement?
Non, mais c'est l'engouement du Vélodrome, les demandes qu'on a eues, notamment de jeunes, machins, etc., qui a fait que... pour répondre à la demande, on a créé une section compétition.
Donc ça fait une sacrée tête de gondole quand on est un club local à côté.
Quand on va en déplacement à droite, à gauche, Montigny, c'est où? On leur dit, c'est le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils connaissent tous. Hein.
Alors, on va se projeter aussi et sur les Jeux Olympiques. C'est dans un peu plus de 2 ans. Et puis, pas très loin de chez vous, il va y avoir l'organisation du VTT sur la colline d'Elancourt. Donc ça, c'est officiel. Et est-ce qu'il y a des synergies aujourd'hui entre le comité d'organisation des Jeux Olympiques et puis des clubs qui se situent proches des infrastructures
pas du tout. Pas du tout.
Non.
De toute façon, il faut savoir que quand il va y avoir les Jeux Olympiques, par exemple, toute la Fédé, et le comité national et tout le comité régional, tout ça, on les vire de leurs locaux pendant 4 mois.
Ouais. Donc il y a vraiment la main mise sur le comité d'organisation, aucune marge de manœuvre pour...
On n'a pas un mot à dire.
Oui. Alors que des synergies pourraient être intéressantes, parce que certains sites, quand ils sont construits, on pourrait penser à la suite, à se dire, bon voilà, on fait un site pour les Jeux Olympiques, et c'est très bien, mais réfléchissons aussi pour que ça profite aux clubs qui sont autour et qui puissent l'utiliser dans un second temps après les compétitions. Mais c'est peut-être cet aspect-là qui n'est pas réfléchi.
Ils disent que oui, mais en réalité, vous savez, le Vélodrome, c'est très compliqué pour nous d'accès, hein.
D'accord. Est-ce qu'il y a des dates là que vous pouvez nous annoncer pour l'année prochaine, Daniel Gagne, des dates à ne pas manquer si vous intéressez à l'actualité du VCMB?
Ah, VCMB tout court, autrement, il y a quand même il va y avoir les championnats.
Allez-y.
Il va y avoir les championnats du monde sur piste quand même.
Alors oui, ça bien sûr, et on y sera cette année du côté du Vélodrome. Soyez-en sûrs.
Nous, au point de vue organisation, on a quand même pas mal d'organisation, puisque le 19 mars, on a sur la base de loisirs une épreuve de la Coupe d'Île-de-France des écoles de VTT. Le 27, on a le Grand Prix de Montigny qui s'adresse là aux seniors départementaux. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une course à Trappes le 24 avril. Sur la zone industrielle. Après, on a Manny-Liamo le 19 juin, où là, c'est un peu la fête des jeunes, puisqu'on a 3 courses, une course minime, une course cadet et une course féminine minime cadette.
Et au niveau du parcours, ça monte un peu, Manny, hein, quand même.
Non, il y a une petite bosse, mais c'est pas...
Moi, déjà, j'ai du mal à la faire en voiture, hein, quand même.
Et puis après, qu'est-ce qu'on a fin août, on a une course qui monte un peu plus, puisqu'on utilise la bosse de Champ Romery, c'est un circuit vers Dampierre, Lévis-Saint-Nom, qui est pour les seniors 2e et 3e catégorie, et juniors. Et puis, entre-temps, là, on va avoir le 13 février, on va organiser au Vélodrome le championnat d'Île-de-France de l'Omnium.
Eh bien, vous avez été complet, Daniel. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez avoir davantage de renseignements sur le VCMB et sa section compétition, allez notamment sur la page Facebook régulièrement actualisée ou sur le site internet du VCMB section compétition.
Et maintenant également sur Instagram.
Oui, j'ai vu. Vous êtes déployé sur Instagram il y a pas très longtemps. Ça fera de belles images de vélo. Merci Daniel Gagne d'être venu dans Parlons Sport. Merci Sylvain, ce fut un plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous.
Merci Gilles.
Merci Julien.
Merci à toi Gilles, salut à toutes et tous.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Allez, bonne semaine.
Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.